Assimilation, intégration ou insertion, ces trois termes qui reviennent sans cesse dans les médias quand il s'agit de débattre des politiques menées en matière de gestion de la diversité, font appel à des philosophies politiques très différentes. À l'occasion des débats sur l'identité nationale organisés par le gouvernement de Nicolas Sarkozy, il a souvent été fait référence à la question de l'assimilation des immigrés. Dans nos sociétés qui se présentent comme multiculturelles, ce mot est à la fois l'objet de tous les fantasmes et sujet à la polémique. Il est vrai que la notion d'assimilation ne fait pas bon ménage avec le relativisme ambiant. L'assimilation se définit en effet comme la pleine adhésion par les immigrés aux normes de la société d'accueil, l'expression de leur identité et leur spécificité socio-culturelle d'origine étant cantonnée à la seule sphère privée. Dans le processus d'assimilation, l'obtention de la nationalité, conçue comme un engagement sans retour, revêt alors une importance capitale. Voilà la définition qu'en donne le Haut Conseil de l'intégration. L'assimilation serait l'aboutissement supposé ou attendu d'un processus d'intégration de l'immigré tel que celui-ci n'offre plus de caractéristiques culturelles distinctes de celles qui sont censées être communes à la majorité des membres de la société d'accueil. L'assimilation, souvent présentée comme exigence propre au modèle français d'intégration, n'a en France aucune traduction juridique, sauf au sens où le droit de la nationalité considère le défaut d'assimilation d'une personne comme susceptible de justifier une décision défavorable à sa demande d'acquisition de la nationalité française. Dans la pratique, le défaut d'assimilation s'entend pour l'essentiel soit d'une incapacité à maîtriser l'usage courant de la langue nationale, le français, soit de la jouissance effective d'un statut matrimonial incompatible avec l'ordre juridique français, par exemple la polygamie. Nous allons tenter dans cette émission d'interroger modestement la notion d'assimilation en compagnie de plusieurs scientifiques. Mais pour avancer sereinement sur cette question, il s'agit d'abord de rétablir une vérité qui est souvent occultée. Depuis quelques années, pour des raisons politiques et idéologiques, des historiens militants affirment volontairement une contre-vérité historique. Durant la colonisation, nous disent-ils, les cultures des populations colonisées auraient été méprisées et soumises à des politiques d'assimilation. Or, avancer de tels arguments, c'est faire fi d'un autre mode opératoire, celui-ci plus largement appliqué et majoritairement répandu au sein des colonies françaises, celui de l'association. Sophie Duluc est historienne à l'Université de Toulouse-Le Mirail et spécialiste de l'Afrique coloniale. Elle remet pour nous les pendules à l'heure et revient sur ce que recouvrent les notions d'assimilation et d'association. Sophie Duluc.
Effectivement, ce sont deux mots qui ont une importance assez grande dans la théorie de la colonisation de l'époque et qui ont été un petit peu déformés par la mémoire collective qu'on peut avoir de la colonisation française, puisque le discours ambiant, c'était que la colonisation française avait été assimilationniste, hein, le mot est long, avait pratiqué l'assimilation, c'est-à-dire la volonté de transformer les sujets de l'Empire français en français à part entière. Par l'école, et très souvent associé à ce mot d'assimilation, on a un peu cette caricature de l'enseignement colonial qui était qu'on enseignait partout, des Antilles à La Réunion, nos ancêtres les Gaulois. C'est une idée très largement déformée, hein, puisque en même temps, ça veut dire que le message d'une France particulièrement bonne colonisatrice, puisqu'elle voulait que ses sujets deviennent des Français avec tous les droits attachés à cela, est passé. Mais dans la réalité, l'assimilation a été extrêmement limitée. Alors, par exemple, pour l'enseignement colonial, le nom ancêtre la Gaulois est beaucoup moins répandu que la caricature qu'on en fait. En effet, tout simplement pour des raisons pratiques, hein, c'était très difficile et très coûteux de pratiquer une politique d'assimilation, puisqu'il fallait traiter les indigènes, comme on disait à l'époque. Il aurait fallu les traiter exactement de la même façon, les scolariser de la même façon, etc., etc. Eh bien, les Français, pas plus que d'ailleurs que d'autres nations colonisatrices, n'ont eu les moyens, ni la volonté politique, de pratiquer une réelle et totale politique d'assimilation. Le réalisme, je dirais la réelle politique sur le terrain, a bien montré qu'il fallait s'appuyer sur des réalités sociales, des réalités politiques locales. Et donc, pour enrober, je dirais, une espèce de virage à 80 degrés, a été inventé le terme d'association, qui résonne comme quelque chose, là encore, de généreux, de positif. Évidemment, nous n'allons pas transformer en français tous ces gens qui n'ont pas d'ailleurs envie d'être transformés en français. Nous allons nous associer avec eux dans une merveilleuse... Alors, en Indochine, ça donnait la coopération franco-annamite. Nous allons nous associer avec nos amis, les notables indigènes, parce qu'en même temps, on respectera leurs coutumes. Puis, de manière sous-jacente, évidemment, ça nous évitera d'avoir trop de citoyens... Dans les empires coloniaux. Et deuxièmement, ça coûte beaucoup moins cher de dire les indigènes se débrouillent un peu entre eux pour tout ce qui est du culturel, pour tout ce qui est d'un certain nombre de domaines. Et en même temps, nous restons apparemment des colonisateurs généreux puisque vous voyez comme nous respectons nos populations.
Pour Nicolas Bancel, historien, le concept d'assimilation est à l'origine de notre modèle d'intégration.
Non, mais le modèle de l'assimilation coloniale, il a été princeps, hein, il a été à l'origine de la question de l'intégration. Parce que l'intégration s'est posée très tardivement, il ne faut pas oublier ça. C'est que la question de l'intégration comme question sociale, elle est devenue pertinente à la fin des années 70. Pourquoi ? Parce que jusque-là, les populations d'origine inter-européenne avaient du mal, il ne faut pas l'oublier, à s'intégrer parce qu'elles étaient souvent rejetées. Vous pouvez oublier les massacres d'Aigues-Mortes dans les années 1898, je crois. La stigmatisation des Italiens, des Polonais, ils ont tous eu à travailler cette crise xénophobe. Mais je fais une différence entre la crise xénophobe et la crise raciste, ce qui, à mon avis, affecte plus les populations du Sud. En tout cas, cette question de l'assimilation a été transférée sur l'intégration à la fin des années 70 parce qu'on avait cette politique de fermeture des frontières qui s'est échelonnée entre 1974 et 1980 et parce qu'on a eu affaire... du fait de cette politique et du fait également du regroupement familial qui a été autorisé, voire aidé, on a eu affaire à une immigration qui n'était plus de passage, il n'y avait plus cet énorme turnover qu'on connaissait dans les années, même encore dans les années 60. Turnover a continué d'exister, mais beaucoup moins forte. Et donc les populations, comme on dit, se sont sédentarisées. Donc elles se sont devenues des composantes sociologiques pérennes, finalement, du paysage français.
Michel Renard est historien, il est aussi l'auteur avec Daniel Lefebvre du livre « Faut-il avoir honte de l'identité nationale ?». Sur la question de l'assimilation, il est en parfait désaccord avec Nicolas Bancel. Pour lui, l'assimilation n'a jamais existé en France. Il défend le modèle assimilationniste au regard des difficultés que rencontrent les pays qui ont fait confiance à un autre modèle, plus différentialiste et multiculturaliste.
Ça n'a jamais été une réalité historique. La colonisation n'a jamais assimilé les indigènes, comme on disait, c'est-à-dire les populations conquises, soumises ou sujettes, ou protégées. Elles n'ont jamais été assimilées. Elles ont gardé le gros de leur culture, elles ont gardé le gros de leur langue, elles ont gardé leur religion. Les faibles efforts et trop faibles efforts dans cette voie, notamment la scolarisation, sont justement apportés au débit de la colonisation. Mais l'assimilation, en fait, tout pays qui accueille une immigration est confronté à ce défi de l'assimiler ou alors de disparaître lui-même. Et on voit aujourd'hui les problèmes que découvrent certains pays face à des immigrations qui, justement, ne se sont pas assimilées, quel que ce soit leur propre fait ou les défauts du pays accueillant. Par exemple, pour l'Allemagne, il y a des rapports récents là qui viennent de montrer le faible niveau d'intégration de la population turque, notamment en matière de réussite scolaire, en matière de statut des femmes maintenues au foyer et pas intégrées dans les professions, etc. Et maintenant, les Allemands découvrent, après deux, trois générations d'immigration turque, que l'intégration n'est pas réalisée et que se sont constitués des ghettos. Donc l'assimilation est l'horizon... le projet, ça devrait être même le projet politique, social, culturel d'un État qui accueille des populations immigrées. Yes, we can. 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 Is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible? Who still wonders
if the dream of our founders is alive in our time, who still questions the power of our democracy. Tonight is your answer.
I went to sleep last night, tired from the fight. I've been fighting.
Zohra Gheraoui est maître de conférences en psychologie interculturelle. Elle étudie les modalités d'intégration des immigrés dans leur société d'accueil et les effets psychologiques qu'elles produisent. Pour elle, l'assimilation peut poser véritablement un problème psychologique.
Ça peut poser problème parce que du coup, eh bien, il va répondre, hein, il va répondre aux sollicitations de l'environnement, s'oublier totalement, et il arrivera un moment, eh bien, où des contradictions vont apparaître, et souvent quand elles apparaissent, eh bien, c'est je dirais pas trop tard, hein, mais c'est que déjà il y a des dysfonctionnements qui apparaissent.
Ça veut dire en gros une assimilation absolue, en reniant presque ce qu'on a été.
Oui, tout à fait. C'est vraiment une fuite en avant, hein, je dirais. C'est vraiment une fuite en avant, et c'est répondre totalement à l'autre, aux sollicitations de l'autre, et donc s'assimiler à son nouveau milieu. Or, on sait que l'assimilation ne peut réussir, entre guillemets, que si elle se fait de manière progressive, et très souvent, c'est très long dans le temps, puisque les chercheurs disaient que, généralement, c'était à la troisième génération, hein, qu'il y avait une véritable assimilation. La question que l'on peut se poser, c'est de se dire, bon, ok, les troisième génération, à la troisième génération, les petits-enfants donc, hein, de migrants s'assimilent à la culture du pays dans lequel ils vivent. Mais de quelle culture parlons-nous ?
Malika Sorel est l'auteur du livre Le puzzle de l'intégration. Elle est aussi membre du Haut Commissariat à l'intégration. Elle estime que l'assimilation et le droit du sol ne doivent pas être des sujets tabous en France.
Il y a une réalité de terrain, on ne peut pas l'occulter. C'est-à-dire que l'assimilation, telle qu'elle a été, pas forcément telle qu'elle a été définie par les sociologues, mais telle qu'elle a été interprétée, donc ça a aussi son importance,
oui.
C'était qu'une personne qui arrivait dans un nouveau groupe, oubliée, devenait amnésique, oublier tout ce qui lui avait été transmis. Moi, je dis, ça ne correspond à aucune réalité. Et c'est valable, pas simplement dans le sujet de l'intégration, mais quand vous arrivez et vous voulez intégrer n'importe quel groupe ou structure, vous y arrivez en étant vous-même, et vous-même, ça veut dire que vous êtes le produit de tout ce que vous avez reçu en héritage, en culture. Donc, quand on arrive sur un territoire, on ne devient pas amnésique. Mais par contre, on va acquérir petit à petit, par le biais du contact avec la société d'accueil, par le biais de l'école. L'école joue un rôle formidable. On va acquérir tous les éléments de la culture du pays d'accueil, de l'organisation aussi du pays d'accueil, qui fait que petit à petit, vous serez en mesure de vivre de manière tout à fait sereine avec les mêmes définitions de comportement que la société attend de tout ce qui évolue sur le territoire français ou le territoire canadien ou hollandais, etc. Donc pour moi, ça correspond à l'insertion. Vous arrivez, vous devez vous approprier des éléments de vie, tout ce qui va vous permettre d'évoluer dans cette société d'accueil qui, je le rappelle, n'a aucune raison de posséder les mêmes manières de vivre, de se comporter que votre société d'origine. Et je dirais même que dans la mesure où c'est basé sur la culture, plus vous venez d'une culture qui a un socle de valeurs, de fondamentaux, qui sont éloignés de celle de la structure de la société d'accueil, et plus vous aurez à acquérir un certain nombre de ce que j'appelle les compétences comportementales. Donc nous sommes dans la situation de l'insertion que vit chaque migrant qui arrive sur une terre d'accueil. Et l'intégration, ça correspond à toute autre chose. L'intégration dans la communauté nationale, c'est de dire qu'à un moment donné, l'étranger qui arrive va se sentir partie intégrante du peuple du pays qu'il a accueilli. C'est-à-dire qu'il ne fait plus partie du peuple, par exemple, marocain, mais il fait partie du peuple français. Et quelque part, il ressent et il est porteur de cette mission de transmettre cette identité-là, cette appartenance, sentiment d'appartenance au peuple d'accueil, à ses propres enfants. Donc il ne va pas leur transmettre, par exemple, « tu es arabe », il va lui transmettre « tu es français ». Et c'est là qu'on voit actuellement, il y a vraiment une méprise, parce qu'on confond le tout, on demande aux personnes qui arrivent, du jour au lendemain, leurs enfants naissent sur le territoire français, ils sont français. Eh bien non, je regrette, ces gens ne sont pas français, on ne devient pas français en naissant sur le sol français, de la même manière qu'un petit de français de souche ne naîtra pas chinois en naissant sur le territoire de la Chine. C'est beaucoup plus complexe que cela, et moi j'estime que nous devons respecter les identités des uns et des autres. Le problème n'est pas le fait que les gens soient d'origine arabe, le problème c'est que les gens arrivent dans un pays et qu'on leur dise, c'est presque une opération du Saint-Esprit, vous naissez sur tel territoire, vous avez l'identité. Ben, on assiste à ce qui se passe, ce qui s'est passé en 2005, c'est-à-dire une énergie considérable déployée pour tout renverser sur son passage, avec des jeunes qui disent « je ne suis pas français, je suis arabe, je suis malien, je suis ci ». Et puis en face, un pouvoir, des gens qui sont sourds, aveugles, et qui disent « mais si, tu es français ».
Le débat sur l'assimilation nous a fait oublier les politiques d'association qui représentaient le modèle dominant adopté par la France pendant la colonisation, et nous l'avons vu avec Sophie Duluc au début de ce reportage. Est-ce que l'association peut être comparée au différentialisme et au communautarisme des politiques de gestion de la diversité que l'on retrouve dans les pays anglo-saxons ? Sophie Duluc, historienne, tente de nous répondre.
Alors ça, c'est une question un petit peu délicate et devant laquelle souvent un historien freine des quatre fers, puisque comparaison n'est pas raison. Enfin, vous connaissez toutes ces précautions méthodologiques. La question des filiations, en plus, est compliquée. Hein, cette idée qu'il y aurait une filiation logique d'un certain nombre de pratiques coloniales dans la France post-coloniale, je pense que je serais assez réservée hein, sur peut-être l'idée un peu mécanique de ces filiations. En même temps, c'est vrai que face à des populations, je dirais, différentes, hein, en essayant d'utiliser un terme un peu neutre, les pouvoirs politiques sont un peu toujours partagés entre ces deux pôles hein, qui sont, d'une part, de transformer complètement, hein, d'assimiler, d'intégrer, mais au prix d'une perte de la culture d'origine, c'est-à-dire que la République française lamine, hein, est un bulldozer hein, qui permet la promotion sociale et qui permet effectivement des choses, mais au prix d'un certain nombre de choses. Et puis de l'autre côté, ce qu'aujourd'hui on pourrait appeler la politique du communautarisme, hein, qui s'appuie sur des structures existantes sur lesquelles on n'intervient pas directement, on essaye de contrôler ça, hein, de le faire entrer dans une politique globale, ce que à l'époque coloniale on appelait les politiques indigènes, et en même temps, au nom d'un respect finalement de ces cultures, d'un discours sur le respect de ces cultures, eh bien, maintenir ces populations quand même dans une espèce de seconde zone, puisque dans le cadre de politique d'association, on marque toujours la différence et il n'y a pas de possibilité, sauf au compte-gouttes, d'accéder à la citoyenneté française. Alors, dans la politique communautariste, on n'est pas tout à fait... Vous voyez, c'est là que la transposition ne fonctionne pas comme ça. Il peut y avoir aussi cette dimension de dire on fait du communautarisme parce que ces gens-là, au fond, ne sont pas comme nous. Donc je crois que je n'irai pas plus loin que ça, sachant que tout ça se réinvente. Mais finalement, ces deux pôles assez presque logiques, hein, je dirais, rationnels, de gestion de la différence au sein d'une société qui reçoit des éléments qui lui posent problème.
Voilà, tout au long de ce sujet, nous avons tenté de vous donner une définition du mot assimilation et de lui donner une perspective historique, sociologique et psychologique.
Thank you.